Culture croisée sur Radio Orient.
Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Aujourd'hui, nous recevons un artiste qui traverse les frontières entre la musique, la poésie et la quête intérieure. Enris Kinami est un musicien albanais installé à Paris, chercheur des traditions soufis, gardien d'un patrimoine musical rare et créateur d'expériences où le son, la voix et le parfum deviennent un langage de paix. Il chante en albanais, en arabe, en turc et fait revivre des mélodies anciennes qui touchent directement l'âme. C'est un honneur d'accueillir aujourd'hui sur nos ondes Enris Kinami. Bonjour et bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci à vous. Je suis honoré d'être dans ce beau studio.
Tout d'abord, Enris, votre parcours est singulier. Comment êtes-vous passé de la musique traditionnelle albanaise à une recherche spirituelle qui traverse plusieurs cultures?
Oui, depuis tout petit, j'ai commencé à faire la musique, à la fois de façon académique, donc en suivant un cursus de musique classique, qui m'a ramené du violon à la guitare, à la composition musicale, puis à la pédagogie, l'enseignement de la musique. Mais également, en parallèle, j'ai reçu quelque part l'école de la vie, l'enseignement de mes grands-parents, qui étaient des grands amateurs de musique traditionnelle. Et sans vouloir, presque sans savoir, je me suis retrouvé à l'âge adulte avec tout un corpus de chants traditionnels, dont j'ai appris plus tard qu'ils étaient en grande partie des chants spirituels à la base, ce qu'on appelle nous « ilahi », donc des cantiques, des hymnes pour la présence divine, et qu'avec le temps, du fait que l'Albanie avait un contexte géopolitique très particulier, c'est un pays athée, d'ailleurs officiellement le seul au monde, où la religion était interdite, pour ne pas faire disparaître cette culture, on avait un peu dénué ces chants de leur dimension ésotérique, spirituelle, sacrale, et on avait remplacé les mots par des mots d'amour, mais en fait c'est des mots qui étaient quand même forts, et c'était des chants qui, même dans cette forme, plutôt on va dire, entre guillemets laïque, moins sacrale, ils étaient très beaux. Donc je me suis retrouvé en arrivant en France, il y a 25 ans maintenant, avec tout un bagage de ces musiques-là, dont j'ai appris en France, bizarrement, qu'elles étaient à la base des musiques, ce qu'on appelle soufis, spirituelles de l'islam.
Vous êtes venu aujourd'hui à Radio Orient, accompagné de votre lutte. Est-ce qu'on peut proposer un petit extrait à nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui? Vous choisissez quelle langue en premier?
Tout à fait. Je vais peut-être commencer par ma langue maternelle, vernaculaire, l'albanais, qui est une belle langue indo-européenne, mais dont l'apport des langues orientales en albanais a été très important, à savoir qu'il y a encore un siècle, quand l'Albanie appartenait à l'Empire ottoman, une bonne partie du lexique albanais était des emprunts de l'arabe, du turc et du persan, et surtout dans la poésie et dans la musique, c'était très évident. Donc là, j'ai composé un chant, qui s'intitule « Tu es la lumière de mes yeux », un chant qui s'adresse à Dieu, à Allah, mais avec des mots en albanais qui sont souvent d'origine orientale, pour faire revivre ces traditions aujourd'hui.
On vous écoute.
Do bülbül era yo
Merci beaucoup, Aris. Vous redonnez vie à des chants anciens, parfois oubliés. Qu'est-ce qui vous a guidé dans ce travail de transmission et de préservation?
J'ai toujours aimé la recherche, toujours été habité par la quête de quelque chose qui nous dépasse. Et ça a commencé par quelque chose de très terre-à-terre, très concret. Dans mon propre domaine, à savoir la musique, je ne trouvais pas suffisamment de sources dans mon environnement. Et donc j'ai commencé à la fois à fouiller les partitions anciennes, où il y avait encore un langage à la fois plus épuré et plus spirituel, plus profond en même temps. Et à la fois, je suis allé voir les derniers musiciens qui étaient encore vivants, qui avaient connu un peu un vent de liberté, dans les années peut-être 40-50, et qui avait encore cette conscience qu'il y avait tout un patrimoine qui risquait de se perdre avec la modernité. Et donc du coup, j'ai cherché par tous les moyens. Puis après, j'ai beaucoup comparé avec les musiques voisines. Vous savez, j'ai parlé de l'Empire ottoman, mais dans un contexte culturel. C'était un espace qui va des Balkans jusqu'à la frontière du Maroc, du Yémen jusqu'à la frontière du sud de la Russie, du Daghestan. C'est un espace immense. Et en comparant avec des chants des autres pays faisant partie de cet espace, dans un premier temps les pays de la région, jusqu'à la Turquie, et au-delà, l'Asie centrale, le monde kurde, le monde persan, le monde du Moyen-Orient, du Levant, arabophone principalement, j'ai vu les liens qu'il y avait notamment au niveau des makams, des mondes de musique, au niveau parfois des usuls, des rythmes, et surtout au niveau en fait, du substrat poétique qui est très relié en fait, au tasawuf.
Aris Kinami, votre musique est souvent décrite comme une expérience intérieure. Comment construisez-vous ce lien entre voix, silence et spiritualité?
La voix, c'est quelque chose qui résonne en moi. Donc, à la base, en fait, je suis instrumentiste. C'est un cheminement intérieur qui m'a ramené ou invité à chanter. C'était tout simplement pour partager à la fois une passion, mais aussi un répertoire que j'avais peur qu'il allait disparaître. Donc c'était aussi un peu dans l'urgence que la voix m'a fait prendre conscience de ce dépôt qu'on a nous tous. Et que souvent les musiciens qui ne chantent pas, ils se limitent plus à un jeu instrumental, ou que la voix est un instrument unique que chacun a, possède en lui, c'est un don divin, chaque voix est unique. Et après, plus la musique tend à être quelque chose qui va soulever l'âme dans des fréquences spirituelles, dans des fréquences qui apaisent le cœur, qui connectent l'esprit au divin, plus elle se rapproche aussi au silence. Le silence, c'est quelque part l'absence des sons, presque l'impossibilité de tout dire, et c'est aussi une invitation à goûter cette présence sans rien dire, sans rien faire. Ce qu'on appelle, nous, dans la tradition ottomane, le sama, on prononce sema, c'est non seulement un corpus de chants comme au Maghreb, mais c'est aussi la cérémonie, notamment, entre autres, pas que, des derviches tourneurs. Donc en fait, c'est un cycle, finalement, de... On peut l'appeler ça musique, mais ça va au-delà, c'est du sema, justement. Mm-hmm. Où il y a aussi des moments de silence, de sagesse aussi, qui nous fait rentrer dans un état que j'appelle presque l'instase, c'est-à-dire l'extase intérieure. Ne pas sortir hors de soi, extase, mais rentrer en soi, stase, et qui nous invite en fait à être dans ce qu'on appelle le rappel du divin, le dhikr. Et c'est une forme poétique, artistique, qui est un moyen en fait d'être dans cette tradition spirituelle avec des formes et des codes qui sont moins connus pour les autres cultures.
Eris Kinami, vous créez également des parfums inspirés de la quête de soi. Comment reliez-vous l'olfactif au musical dans votre démarche artistique?
Oui, alors j'ai eu vraiment une chance inouïe de grandir dans une maison ancienne avec un jardin méditerranéen. Parce que je rappelle que l'Albanie, surtout la partie centrale, là où je suis né, Tirana, c'est une ville très méditerranéenne. Et en cela, elle est très proche du sud de la France, du sud de l'Italie, de l'Espagne, du sud, du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, tout le Moyen-Orient. Et on a tendance à oublier en fait que la mer méditerranéenne, c'était en fait l'autoroute pendant des siècles. Et que les matières parfumantes, les matières premières de parfum, donc les fleurs, les feuilles, les épices, les bois, les résines, ont souvent traversé des contrées très lointaines. D'abord à l'époque des Nabatéens, donc on est à l'an 1000 avant Jésus-Christ, un peuple arabe qui avait comme capitale Petra, qui a pour la première fois en fait mis en place les caravanes, qui les a reliées avec un système dans ce qu'on appelle caravansérail, qui ce serait notamment en fait le hôtel des caravanes, les auberges, qui ont relié l'Asie, l'Afrique et l'Europe à travers la route de la soie, la roue de l'encens, d'où viennent une bonne partie des essences odorantes qu'on a, nous, en Méditerranée. Et je donne juste un argument. Tous les cédras, tous les citrus, tous les orangers qu'on a en Méditerranée, ils viennent tous de Chine, et ils ont été traversés par les Arabes, bien avant l'arrivée de l'islam, en fait, au Moyen-Orient, et avec la conquête de l'Andalus.
La route de la soie.
C'est la route de la soie, mais c'est la route aussi des épices.
Ouais.
De l'encens, de la myrrhe. C'est la route de sens. Et donc, il faut imaginer qu'en Europe, avant le 7e, 8e siècle, il n'y avait pas de citron, il n'y avait pas d'orange. Ça peut nous paraître bizarre, mais c'est le cas. Ce sont les Arabes et les Berbères, les musulmans, qui les ont ramenés via l'Andalousie. Il y avait la Sicile. Ils ont d'abord ramené ce qu'on appelle, nous, le bigaradier, l'orange amer, Neroli, Zahar. Et après, beaucoup plus tard, les Portugais ont ramené l'orange douce, c'est ce qu'on mange, nous, au XIVe siècle. Et donc, du coup, moi, j'ai grandi, en fait, dans un jardin méditerranéen avec, bien sûr, la rose, la violette, le jasmin, mais aussi les bois, le pin, le sapin, les agrumes, le figuier, le raisin. Et en fait, depuis que je suis petit, sans vouloir, encore une fois, sans savoir, hein, j'ai fait mon nez, j'ai été amené à vivre avec le vivant et le naturel. Et j'ai toujours voulu, justement, ces odeurs-là, les combiner ensemble. J'étais, je pense, le seul garçon de mon école qui avait un herbier. C'était plutôt les filles qui faisaient ça. Et donc, j'ai toujours été très connecté à l'odorat. L'odorat, c'est le sens le plus intrigant que nous avons des cinq sens. Parce que c'est le plus invisible, donc c'est un sens totalement visible, qui, contrairement aux autres sens, ne passe pas par le ratio, par le rationnel, passe par la partie limbique du cerveau, qui est la partie des émotions et de la mémoire. Donc chaque odeur, chaque senteur, est reliée à une mémoire que nous avons. Et l'histoire du parfum, du mot latin perfumum, de par la fumée, c'est l'histoire de l'homme, en fait, qui découvre quelque part aussi un peu par hasard, qu'une fois qu'il va chasser le bison, il va cuire la viande, le mélange du feu qui crépite, l'odeur du bois, avec la viande qui cuit, ça fait une odeur différente. Et la fumée qui monte vers le ciel, à la fois pour lui, c'est une forme de transcendance, parce que certaines fumées vont monter droit comme des flèches, d'autres vont monter, en fait, dans des formes inattendues. L'homme comprend qu'il y a un au-delà, qu'il n'est pas seul. Et il voit le parfum comme un rituel, comme une offrande, dans un premier temps, au Dieu, et plus tard, avec l'arrivée des religions monothéistes, à Dieu unique. Et à la fois, c'est une protection pour l'homme, parce que dans le foyer où il y a la fumée, il y a une présence humaine, donc les animaux sauvages n'osent pas y approcher. L'histoire du parfum, c'est l'histoire de l'humanité. L'histoire oublie l'humanité. Où pendant des millénaires, dans toutes les cultures, allant de l'extrême sud-est du Japon jusqu'aux cultures amérindiennes, en passant par toute l'Asie, l'Afrique, l'Europe, le parfum était un rituel parfois aussi de guérison. Jusqu'en 1802, en France, les parfumeurs étaient des apothicaires. Ce n'est qu'à cette période-là où ils se sont séparés. Mais le parfum avait toujours, en tout cas jusqu'à cette époque-là, une dimension de shifa, de guérison, de médication. Et c'est dans ce sens-là que je crée des parfums naturels, pour revenir à quelque chose de profond et de quelque chose d'authentique.
Vous savez, Eris, je prends beaucoup de plaisir en vous écoutant voyager comme ça dans le temps et dans l'histoire pour nous raconter ce voyage magnifique des parfums et des odeurs méditerranéennes. Vous chantez en albanais, en turc, en arabe. Comment vous avez appris à chanter les autres langues plus que votre langue maternelle, bien sûr?
Ben, je pense que c'est peut-être, je suis pour rien, c'est sûrement un don. D'ailleurs, je dis en rigolant du fait que quand on est musicien, on va donner du sang, mais on va sonner un don aussi.
Ouais.
Donc c'est quelque chose qui ne nous appartient pas, c'est un don de la présence divine, parce que j'ai toujours aimé les langues. Quand j'étais petit en Albanie, malgré le fait qu'on était dans un pays totalement isolé, enfermé sur lui-même, j'écoutais la radio notamment égyptienne, j'écoutais Oum Kalsoum, j'écoutais en fait l'arabe me faisait voyager. Et en fait, j'étais très connecté à cette langue qui était pour nous totalement mystérieuse, dont on ne comprenait rien. Mais avec le temps, j'ai compris que beaucoup de mots arabes, on les avait en albanais. C'est juste que souvent, on les prononçait autrement. Après, plus tard, c'était la découverte avec le turc, et plus tard aussi avec le persan, où je chante également. En fait, j'ai toujours aimé les langues orientales, autant, sinon plus que les langues occidentales. Donc ça m'a paru évident quand je suis allé au Maroc, dans un premier temps. J'ai voulu chanter un chant en arabe pour honorer en fait l'invitation qu'ils m'ont fait. Et ça a commencé comme ça, pareil en Turquie. C'était dans un premier temps une façon de respecter les hôtes et de se mettre à leur place et d'apprendre un minimum de leur tradition. Et la langue, en fait, c'est un moyen de communication.
Et j'ai vu que vous avez participé au festival de la musique sacrée à Fès.
Festival de la culture soufie.
De la culture soufie, ouais. À Fès. Je vous demande maintenant, si c'est possible, bien sûr, de chanter un petit morceau en arabe à nos auditeurs, les auditeurs de Radio Orient.
Avec grand plaisir. C'est de l'arabe ottoman, donc c'est un mélange un peu entre le turc et l'arabe, mais c'est de l'arabe classique à la base, le foussa.
Merci beaucoup, Eris Kinami. Vous vivez aujourd'hui à Paris, dans la région parisienne, je pense. Qu'est-ce que cette ville a changé dans votre regard sur la musique et comment dialogue-t-elle avec vos racines?
J'aime beaucoup Paris, j'aime beaucoup la France. En fait, moi, je me considère de plus en plus franco-albanais, puisque j'ai passé plus de temps en France que dans le pays où je suis né. Et j'aime beaucoup la culture française. Je pense que l'humain, il est capable d'avoir cette dimension. Et en fait, il peut conjuguer en lui des choses qui paraissent différentes. Mais en fait, l'humain est fait de quoi? Il est fait en fait de chair, d'os. Il est fait de muse de la terre. Et ça rappelle aussi l'humilité. Et ça rappelle aussi l'humanité. Et en fait, partout, quand on voyage, on voit que les humains sont beaucoup plus similaires les uns aux autres que ce qu'on croit. Les problèmes sont globalement pratiquement toujours les mêmes. Et en fait, ça nous apprend aussi finalement à comprendre que si on est quelque part, ce n'est pas notre volonté en fait. C'est peut-être la volonté de celui qui a tout créé en fait, qui nous a mis là et qui nous a mis là. Il y a un sens. Il y a un sens. Et on doit non seulement comprendre ce sens, mais œuvrer pour faire en sorte que cette diversité, c'est-à-dire un nouveau parfum que j'ai créé, qui va sortir d'ici quelques semaines, qui s'appelle Diversité. Cette diversité, ce n'est pas juste un slogan. Ce sont des différentes facettes de l'être en lui. L'être humain, en fait, il a un cycle aussi olfactif, comme la plante. Il se réveille le matin, il n'a pas les mêmes odeurs qu'il aura le midi, l'après-midi, le soir. En fait, en lui, il traverse toutes les étapes de la création. On sait bien qu'à chaque prière, à chaque salate, on recrée notre Adam primordial, avec les trois positions, qui bizarrement ressemblent comme deux gouttes d'eau à trois lettres arabes, Alif, Dal, Mim, Adam. Et la ville de Paris, c'est une ville vraiment incroyable, de par sa richesse historique, culturelle, ce qui le place comme une ville sûrement unique en Europe, et l'offre en fait cette possibilité d'être ici, mais de toucher un peu à tout ce qu'on veut. Et ça permet aussi d'être à 2 heures de Fès, à 2 heures de Tirana, à 2 heures de Tunis, à 2 heures de Copenhague. C'est vraiment un centre, en fait. Mm-hmm. Et pour les artistes, c'est vraiment le centre. Puisqu'ici, c'est en France, en fait, où j'ai développé tous mes projets à la fois musicaux, de parfumerie, aussi de poésie, parce que j'écris aussi beaucoup la poésie. Et donc je suis très reconnaissant en fait à Dieu qui m'a fait la chance de pouvoir venir ici, ne serait-ce que vous rencontrer, venir à Radio Orient, qui aurait pensé il y a 50 ans qu'il y aurait une Radio Orient en France en fait. Donc en fait tout ça pour dire qu'on a vraiment cette chance et on doit vraiment être conscient et l'utiliser à bon escient.
Eris Kinami, qu'est-ce qu'on peut proposer à nos auditeurs? On profite de votre présence accompagnée de votre lutte. Merci. Aujourd'hui.
Un chant en turc justement.
Okay.
Un chant de Yunus Emre, le grand poète turc du XIIIe siècle. Güzel aşık severimizin çekemezin demedimi bu bir rüzgar lokmasıdır yiyemezin demedim mi gönül sana söylemedim mi ya o demedim mi o demedim mi gönül sana söylemedim mi güzel aşık çevrimizin çekemezin demedim mi bu bir rüzgar lokmasıdır yiyemezin demedim mi.
Merci beaucoup, Eris Kinami, pour cette rencontre où la musique devient un chemin, une mémoire et une lumière intérieure. Votre voix nous rappelle que les traditions ne sont jamais figées, qu'elles respirent encore à travers ceux qui les portent avec sincérité. À nos auditeurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage sonore sur nos ondes. Merci, Eris.
Merci à vous, Aurore. C'est un grand plaisir, un honneur d'être parmi vous.